Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, LeRéveilDesFans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. Les héritiers de la Force et la ville de Cusset vous invitent à la 18e édition de Génération Star Wars et Science-Fiction. Joignez le rendez-vous annuel des fans de Star Wars en France.
Chewie, we're home.
Cette année, la surface d'exposition élargie permettra plus d'animation et de contenu comme
des acteurs Star Wars et d'autres invités spéciaux,
des décors grandeur nature,
des conférences,
des concours et compétitions,
le quiz Star Wars,
des démonstrations de jeux et de combats au sabre laser,
ainsi que la présence de costumés de la 501st,
la Rebel Legion et du Jedi Order.
We would be honored if you would join us.
Génération Star Wars et science-fiction.
À l'espace Chambon et au centre Éric Tabarly de Cusset. Le week-end du 30 avril et 1er mai 2016. Pour plus d'informations, visitez le www.genstarwars.com.
The Force is calling to you. Just let it in.
So what I told you was true, from a certain point of view.
Everything's perfectly all right now. We're fine. We're all fine here now. Thank you.
Avertissement. Ce podcast contient du contenu qui peut influencer votre expérience des futures productions de l'univers Star Wars.
I'm not afraid.
L'écoute de cette émission est laissée à votre entière discrétion.
Evacuate? In our moment of triumph?
I'm going to regret this.
Look, don't worry. Everything's going to be fine. Trust me.
If what you've told me is true, you will have gained my trust.
I wonder if your feelings on this matter are clear.
For your own good, stay out of this affair.
Now you will experience the full power of the dark side.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 16e édition Spoilers, enregistrée le jeudi 18 février 2016. Aujourd'hui, on va vous faire le premier épisode Spoilers consacré entièrement à Rogue One. On sait que le tournage est à toute fin pratique terminée, donc on va revenir sur les informations générales qu'on connaît et certaines informations spoilers. Je suis Danny Pépin et pour m'accompagner cette semaine, Jean-François Richard. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Danny.
Qu'est-ce qui se passe de bon de ton côté depuis la dernière fois qu'on s'est parlé?
Pas grand-chose côté Star Wars, c'est assez tranquille. Mm-hmm. Très tranquille même. J'ai quelques livres en retard que je veux lire, donc... Le seul livre que j'ai lu, c'est l'adaptation de « Tu réveilles la force
». Puis qu'est-ce que tu en as pensé?
Ordinaire.
C'est tel quel que le film, hein?
Ouais, c'est ça. Il y a quelques petits bouts rajoutés, mais c'est pas comme l'adaptation des romans de la prélogie ou de la trilogie originale. C'était vraiment des nouvelles scènes et tout. Mm-hmm. On n'apprend pas beaucoup de nouveau.
De mon côté, j'ai finalement déballé mon Imperial Assault Carrier de Star Wars miniature qui est vraiment beau. J'ai pas eu le temps de jouer encore, mais il est juste à côté de moi sur mes bibliothèques. Il est superbe.
T'as-tu accroché tes petits TIE Fighters en dessous?
Bien sûr! C'est essentiel, voyons.
Ouais, c'est ça.
J'ai pas toutes lu les règles encore, puis je veux voir comment ça fonctionne aussi les déplacements, parce que c'est différent aussi les enfin. Puis j'ai continué j'ai terminé la novelisation, comme t'as probablement vu avec le Star Wars en direct express.
Oui.
Et j'ai aussi terminé Battlefront Twilight Company. Donc je suis à jour de ce côté-là. Il y a les livres jeunesse là, que je veux essayer peut-être de... Surtout Before the Awakening qui m'intéresse plus.
Ouais.
Donc, j'ai pas lu ça encore ou j'ai juste lu des résumés jusqu'à présent. Donc, c'est une émission spoilers, bien sûr. Donc, dans cette émission, on discute spoilers, rumeurs et spéculations. Donc, si vous voulez rien savoir sur Rogue One, arrêtez immédiatement. C'est votre avertissement, on vous prévient. Si vous êtes anti-spoilers, par contre, je vous suggère d'écouter toutes nos plus récentes émissions qui sont disponibles sur Star Wars.direct. Donc, les trois plus récentes, Star Wars en direct Collectors numéro 1, notre premier épisode sur les produits dérivés, où Raphaël et Sébastien discutent justement des prodeurs de Hasbro, Lego et Hot Toys qui accompagnaient la sortie du Réveil de la Force, donc dans le temps de Noël. On a aussi Star Wars en direct 118, où Sylvain, Thomas, Jérémy et moi-même, on fait un retour sur l'actualité Star Wars des dernières semaines et où on a une entrevue avec Kirel Benzi, l'auteur de l'énorme analyse sur l'univers étendu, sur les personnages, les factions, etc., que vous avez sûrement vu passer sur vos fils de médias sociaux. Et aussi Star Wars en direct littérature numéro 3, où Thomas et moi-même parlons BD et romans Star Wars. On fait une petite mise à jour rapide sur dernières actualités littéraires et on parle un peu BD et roman, où je fais la critique justement du Réveil de la Force, Lost Star et Twilight Company. Donc, présentement, on est toujours à la recherche d'éditeurs sonores et éditeurs vidéo pour nous aider en arrière-scène. Donc, si vous avez ces talents et puis vous voulez offrir de l'aide à l'équipe de réalisation de Star Wars en direct, allez sur starwars.direct/recrutement et remplissez le formulaire. On a besoin d'aide pour vous livrer plus de hors-série et d'émissions régulières, plus régulièrement et de meilleure qualité. Donc, avant d'aller en hyperespace, je remercie bien sûr nos partenaires, Mintinbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Le Réveil des Fans, Radio H2O et Génération Star Wars et Science Fiction.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc, on a appris que le premier film spin-off qui s'appelait originellement des films d'anthologie s'appellerait Rogue One. Mais déjà, le terme anthologie a été changé pour A Star Wars Story. Donc, Rogue One, A Star Wars Story, ça raconte l'histoire de combattants de la résistance qui s'unissent pour voler les plans de la redoutable Étoile de la Mort. Donc, en gros, c'est le synopsis qui nous avait été livré à Star Wars Celebration par Gareth Edwards. Et le film se déroule bien entendu entre l'épisode 3 et l'épisode 4. On n'a pas exactement la ligne du temps exacte de l'année avant A New Hope. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la production de Rogue One jusqu'à présent? Donc, comme je viens de vous le mentionner, le film est réalisé par Gareth Edwards, donc qui a réalisé Godzilla et Monsters. Il y a Gary Whitta qui a travaillé sur le script jusqu'en 2014, puis Chris Weisz a pris le relève en 2015. Le film a été tourné en Angleterre, majoritairement à Pinewood Studios. Le tournage est à toute fin pratique terminé. Rogue One sera le premier film dont la musique ne sera pas composée par John Williams, mais sera composée par le français Alexandre Desplat. Et les acteurs principaux connus qui ont été annoncés, on a Felicity Jones, Diego Luna, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Forest Whitaker, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Jiang Wen et Jonathan Harris. Le film est prévu en salle pour le 16 décembre 2016 en Amérique. Donc, Jean-François, on va commencer avec quand même un bon spoilers qui raconte vraiment le lien principal entre, selon moi, les deux personnages principaux du film.
Oui, exactement. Et ça donne aussi, je pense, l'histoire du film en même temps. Mm-hmm. On parle du personnage joué par Mads Mikkelsen ainsi que Felicity Jones. Donc, ce qu'on apprend, c'est que le personnage de Mads Mikkelsen, qui s'appelle Galen, est la clé du film. Dans le fond, c'est un scientifique qui a pris le contrôle de ce qu'on appelle le projet Geonosian de l'Étoile de la Mort. Mm-hmm. Donc, il a résolu beaucoup de failles que l'Empire n'était pas capable de résoudre. Et à cause de ça, il est très renommé par l'Empire pour ses contributions. Mm-hmm. Donc, la culpabilité que Gallum ressent pour sa contribution à l'Empire devient très pesante sur ses épaules et il décide de défecter à la rébellion pour corriger les erreurs qu'il a faites. Donc, pour atteindre cet objectif, il demande l'aide de sa seule fille, qui est le personnage de Felicity Jones, dont il y a deux noms qui circulent en ce moment pour le personnage, soit Jin ou Lyra Erso. Dans le fond, le personnage de Felicity Jones doit renverser la réputation de sa famille. Les versions préliminaires du personnage montraient que c'était un mercenaire de un peu genre chasseur de primes, mais avec la connexion qu'elle a avec Gallum, on a plutôt l'impression que ce serait une scientifique elle aussi. qui sera en mission justement pour essayer de trouver les plans de l'Étoile de la Mort, mais qu'il y aurait des chasseurs de primes qui l'aideraient.
Okay.
Mais ça, on n'a pas encore de confirmation à ce sujet-là. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle l'histoire.
Moi, ouais, la prémisse.
C'est ça.
Ouais, parce que je sais pas si t'as déjà vu quand t'as parlé de scientifique, ça me faisait penser, je sais pas si t'as vu la série The Last Ship.
Oui.
T'as la scientifique qui est à bord du vaisseau entouré de militaires, ben ça fait penser un peu à ça. Elle va aller à une mission, mais elle est pas nécessairement la militaire, même si ici on dit qu'elle est connectée avec des chasseurs de primes et elle est peut-être même une mercenaire.
Ouais.
Mais c'est rare qu'une personne scientifique va devenir mercenaire, enfin.
Exactement.
C'est comme deux chemins de vie complètement différents.
Ça se croise pas souvent.
Surtout si son père est scientifique, en général, tu vas être mieux éduqué, etc. Donc, tu n'iras pas nécessairement devenir mercenaire ou chasseur de primes.
Ouais, c'est
ça. En étant jeune. Donc, probablement qu'elle a des connexions avec des chasseurs de primes, mais elle ne l'est peut-être pas elle-même, en fait. Bah, c'est ce que je suppose, je dirais. Là. Donc, Jin ou Lyra Erso. Il y avait une rumeur qui disait que Lyra Erso, c'était comme le nom de code de sa doublure. Donc, c'est pour ça qu'ils ont supposé que c'était peut-être son nom aussi.
Ouais, c'est ça.
Donc, sa doublure, sa stun double, donc sa cascadeuse de Felicity Jin. Jones.
Ouais, c'est ça. La seule chose aussi, c'est que le nom Jin, c'est un nom qu'on a vu quelques fois dans l'univers étendu.
Okay.
Dans les jeux vidéo, entre autres, ainsi que le jeu Imperial Assault, justement, tu as un des personnages principaux qui s'appelle Jin.
Okay.
On va voir.
Mm-hmm. Donc, on poursuit. On a aussi eu des petits détails sur... Ben, c'est vraiment petit. Hein. Faut l'avouer, présentement, les informations sont très, très minces. Il y a vraiment pas grand-chose. Le tournage est à tout fait pratique fini, mais je suis pratiquement convaincu que la journée que vous allez nous écouter le podcast, Spoilers numéro 5, 16, vous allez avoir plein de nouvelles informations. Parce que là, on est au point pivotant. Je pense que vraiment, les rumeurs vont vraiment commencer à sortir parce qu'il reste 10 mois à peu près. Pratiquement jour pour jour.
Ouais.
Donc, je dirais que ça va commencer vraiment à sortir beaucoup les informations. Là. Donc, qu'est-ce qu'on sait des autres personnages et des autres acteurs? Donnie Yen, qui est une superstar des arts martiaux de Hong Kong, on connaît pas grand-chose sur lui. Mais on suppose, dans plusieurs rumeurs, qu'il est sensible à la force, sans nécessairement être un Jedi. Et je crois, peut-être tu peux me le confirmer, je crois que c'est celui qui est aveugle.
Oui, exactement.
Ou qui semble être aveugle.
Oui, c'est ça.
OK. Donc, c'est tout ce qu'on sait sur lui. C'est vraiment très, très peu. J'imagine qu'on va le voir en train de faire des combats assez impressionnants, étant donné que c'est un spécialiste des arts martiaux. T'sais, quelqu'un qui se sert de la force pour vraiment contrôler son combat.
Ouais. Puis il tease beaucoup sur Twitter.
Ah oui?
Ouais, il donne beaucoup de petits teases comme celui-là. Il a dit que mon personnage, pas mon personnage, mais il a dit la force est forte avec moi. Ou,
okay.
C'est lui qui a montré les cases de Stormtrooper qu'on va parler un peu plus tôt, loin.
Mm-hmm.
Donc je pense que de tous les acteurs, c'est lui qui donne le plus de.
Qui est plus actif sur les médias sociaux.
C'est ça, exactement.
On poursuit avec le personnage d'Alan Tudyk. Alan Tudyk. Le nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je dis qu'il était le pilote Wash dans Firefly, vous allez tout de suite reconnaître son visage. Mais malheureusement, vous le reconnaîtrez pas dans le film parce que ils vont faire un personnage virtuel en capture de mouvement, en mocap. Et puis la rumeur est que son personnage serait un droïde en fait, et plus particulièrement un droïde commando. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Je me souviens pas, c'est dans Clone Wars qu'il y avait des droïdes commando.
Oui, il y avait les c'était comme un type de battle droid là,
mm-hmm.
qui était ouais, commando.
Donc, je sais pas si ça pourrait être un peu affilié à ça. Tu sais, un vieux droïde recyclé.
Oui, c'est ça.
Ça pourrait être un... Sans être un battle droid d'épisode 1, j'espère que non. Là. Malgré... est-ce que tu as lu Aftermath?
Non.
Star Wars Aftermath?
Non.
OK. Là-dedans, il y a le jeune garçon dans cette histoire-là, il est très très bon mécanicien, il construit des droïdes. Et puis il a rebâti un droïde de combat de l'épisode 1. Mais okay. Il est vraiment... c'est un droïde vraiment tueur, là.
OK.
Il s'appelle Mr. Bones.
OK.
C'est vraiment bon. Si t'écoutes la version audiobook, là,
ouais.
Juste la façon qu'il parle, là, c'est comme si sa programmation... Il parle vraiment comme les battle droids, là. Tu sais, Roger, Roger.
OK, ouais.
Mais vraiment, avec de la distorsion dans sa voix, puis il est comme... Il sonne complètement fou, comme crazy.
Okay.
C'est comme il dit il est comme, c'est vraiment drôle. J'adore ce droïde là. J'espère qu'on va le revoir dans les prochains dans la trilogie Aftermath là. Vraiment. Donc tout ça pour dire que Alan Tudyk va jouer un droïde de commando et ça va bien avec tout ce qu'on connaît qu'il y a une unité de commando ou bounty hunter ou mercenaire qui va aller chercher les plans de la Death Star. Ben, en fait, la description, elle dit des Freedom Fighters ou des Resistance Fighters. J'ai traduit ça en combattant de la résistance. Donc, c'est peut-être pas, ça fait peut-être pas partie de l'Alliance Rebelle, mais c'est peut-être une petite cellule séparée.
Ouais, comme la série Rebel.
Mm-hmm, exactement. Donc, combattant de la résistance. Ça correspondrait vraiment avec Rebels, en effet. Ensuite... On parle du personnage de Forest Whitaker, l'acteur incroyable, Forest Whitaker, qui est un peu du genre Denzel Washington, Morgan Freeman, c'est ça son nom, l'autre?
Ouais, c'est ça.
Tu sais, des gros canons d'acteurs qui sont capables d'avoir une présence incroyable à l'écran. Ils commandent la présence à l'écran quand ils veulent, donc c'est vraiment intéressant qu'ils jouent dans ce film-là. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur son personnage? On n'a pas de nom, bien sûr. On a des noms de code qu'on va vous parler plus tard, mais on n'a pas de nom en tant que tel. Donc, il utilise une canne, son personnage, car il a seulement une jambe de fonctionnel. Et la rumeur est que l'autre est robotisé. Donc, il y a une jambe réelle et une jambe robotisée, ou il en manque une, puis sa seule jambe fonctionnelle est robotisée, ça je sais pas. J'ai pas tout à fait compris. Je pense que la personne que Making Star Wars n'était pas certaine, là.
Non, c'est ça.
Pas. Fait que s'il y a une canne, est-ce que c'est parce qu'une jambe réelle et une jambe robotique ou c'est que la seule jambe qu'il tient est robotique aussi? On le sait pas. Je suppose, moi, que c'est la jambe, peut-être pas robotique, mais mécanique, du moins. Ensuite, l'autre chose qu'on sait sur le personnage de Forest Whitaker, il semble être un vétéran de guerre ou de bataille. C'est pas vraiment clair, mais il a probablement perdu sa jambe durant la guerre des clones ou... pendant la guerre civile galactique, donc en combattant l'Empire plus récemment, en fait. Donc, on le sait pas vraiment, mais bon, c'est ce qu'on pense que est le passé de Forest Whitaker. Et l'autre chose qu'on sait sur... une autre chose qu'on sait sur ce personnage, c'est qu'il serait du côté des héros et non des vilains, mais il a probablement une affiliation avec des chasseurs de primes. Ça, c'est super intéressant parce que le genre d'acteur comme Forest Whitaker, tu le vois comme un commandant ou un chef un peu comme Mon Mothma ou Princess Leia, tu sais, comme un politicien ou un général. Mais clairement, ici, il y a la plus d'un chasseur de primes, donc il va botter des culs, j'ai l'impression. Ou il est peut-être juste le chef des chasseurs de primes aussi.
Ouais, c'est
j'ai
ça.
Bien hâte de voir. Une autre chose qui est étrange, en fait, il y a une cape. Et son accoutrement semble être son habillement semble être un ramassis de différentes choses. Un peu comme on verrait les aliens portés ou les contrebandiers au château de Maskanata, par exemple. Ou dans le palais de Jabba, ou dans la cantine. T'sais, le genre de accoutrement que les mercenaires porteraient. T'sais, des vêtements moitié armure, moitié vêtements. Un peu ce genre-là, donc typique scoundrel, disons.
Ouais,
donc ensuite aussi, on a un petit peu de détails, vraiment pas beaucoup, sur le personnage de Jian Wen. On va vous le montrer dans la version rehaussée, dans la photo de l'équipe, c'est celui qui a les cheveux longs. Et il a l'air d'avoir une espèce d'armure rouge un peu, avec un peu de couleur rouge. Lui, apparemment, c'est l'amateur d'armes. Ou l'expert en armes du groupe, tu sais, le gun freak, là, le gars qui a toujours une arme de cachet puis qui meurt jamais parce qu'il a tout le temps une arme de cachet. Donc, c'est ça, c'est le spécialiste d'armes. Donc, on peut imaginer qu'on va voir toutes sortes de situations particulières où il va réussir à se sauver d'une impasse grâce à une arme qui va apparaître de ses vêtements ou de sa cheville, ou on sait jamais.
Ben, sur la photo qu'on voit, qu'on voit les acteurs principaux, mm-hmm. là, tu le vois, il est comme entouré de... C'est ça, il est comme toutes les guns, une table, puis tout ça, ça a l'air d'être des bombes en entour de lui, puis okay. tout.
Ok, donc l'expert aussi en munitions explosives.
Ouais, c'est ça, exactement.
Oh, parce que tu vois clairement qu'ils ont chacun tout un rôle dans sa photo. T'en as un qui a l'air plus un slicer, comme un hacker. T'as Felicity Jones qui serait peut-être la scientifique. T'as le personnage de... Voyons, je viens de le dire. Donnie Yen qui serait un peu le spécialiste en combat corps à corps. En tout cas, on voit un peu la variété de ressources disponibles dans cette petite unité-là.
Ouais, c'est ça, ils ont comme chacun un rôle spécifique.
Mm-hmm. Et bien sûr, on voyait pas le droïde commando, parce que bon, non. Il était probablement pas fait encore. Mais on peut l'imaginer facilement dans le groupe, tu sais. Puis ça me surprendrait pas du tout, le droïde commando qui soit... Il y a un peu d'humour, tu sais, connaissant le personnage d'Alan Tudyk.
Ouais, c'est ça.
Il fait tout le temps des petites répliques, donc ça me surprendrait pas qu'on ait un peu un comic relief... même si c'est un droïde commando qui a un petit peu un petit comic relief dans ses commentaires là.
Ouais, ben ça serait vraiment drôle de voir l'acteur dans un rôle sérieux.
Mm-hmm.
Ça serait étrange un peu.
Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qu'on connaît des personnages secondaires, donc les autres membres du groupe, en fait, du groupe qu'on voyait sur la photo, malgré que Forest Whitaker n'était pas annoncé encore à ce moment-là.
Puis Mads
Mikkelsen non plus.
Non plus, ouais. On continue avec les différents noms de code des factions dans Rogue One. Donc, on apprend qu'il y a trois factions. Mm-hmm. Il y a les héros, si on peut dire.
Mm-hmm.
Il y a les chasseurs de primes et il y a les méchants qui...
C'est l'Empire.
Ouais. Donc, ils ont chacun un nom d'animal attaché comme nom de code. Pour la faction. Donc, les héros, c'est les phoques. Les chasseurs de primes, c'est les anguilles. Et l'Empire, c'est les requins.
C'est vraiment bizarre. Ils appellent comme ça. Là. Donc, en anglais, les seals,
les eels.
Les eels, puis les sharks.
C'est ça. Donc, on apprend que le personnage de Felicity Jones, son nom de code, c'est Green Seal Leader. Donc, qui serait sûrement le chef du commando du groupe.
Mm-hmm.
Le personnage de Yang Wen, son nom, c'est Seal Communicator Blue. Donc, lui, son personnage, il doit être en charge des communications.
Mm-hmm. Pourtant, on vient juste de dire qu'il était apparemment le spécialiste des armes.
Oui.
Donc, on voit déjà des incongruités ou des conflits dans les rumeurs jusqu'à présent. Là.
Le personnage de Forest Whitaker, son nom de code est Eel Commander. Donc, Eel, ce qui laisse croire qu'il serait un chasseur de primes, mm-hmm. ou qui est associé au chasseur de primes, d'une certaine façon. Et le personnage de Alan Tudyk, son nom de code, c'est Seal Droid. Donc, ce qui confirme que c'est un droïde,
mm-hmm.
et qui fait partie des héros aussi.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça, on n'a pas de nom pour les personnages de l'Empire encore.
Donc, on peut imaginer Hammerhead, Great White. D'ailleurs, je viens de dire un nom comme ça, au hasard, on va revenir plus tard, hein, que je viens d'y penser.
Ouais, c'est,
là. C'est fort, mon affaire. J'y ai pas pensé partout. Ah, l'improvisation, hein. Des fois, c'est en parlant qu'on a des idées. Hein. On fait comme un mini brainstorming en même temps qu'on parle de l'actualité. Donc, c'est ça qui est intéressant. Là.
C'est ça. Ensuite, on a la description d'un décor et d'une scène possible.
Mm-hmm. Donc, on a fini les personnages maintenant. On s'en va vraiment plus dans les contextes.
Donc, en gros, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une scène où on voit un X-Wing, le X-Wing classique. Qui est noir, par exemple,
mm-hmm.
Qui s'est écrasé dans un environnement urbain dont l'architecture peut faire penser à Mos Espa ou Tatooine. Lors de l'écrasement, le vaisseau a arraché une arche. Il y a des cordes, il y a des câbles qui traversent les rues en terre battue. Ça fait penser un peu à des fils de téléphone qui sont connectés sur des circuits. Hein.
Mm-hmm.
Près du lieu de l'écrasement, il y a deux chasseurs de primes. Et ainsi que 5 Stormtroopers qui s'approchent. C'est un décor qui est pratique. Donc, qui n'est pas numérique,
mm-hmm.
et qui comporte des éboulements de pierre qui rappellent un peu les films de la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, c'est intéressant, ça. J'imagine déjà Saving Private Ryan, là, quand ils sont dans les villes avec tous les bâtiments écrasés, là, les bâtiments effondrés. On n'a pas spécifié, mais on parle de Stormtroopers. Ici, c'est des Stormtroopers typiques épisode 4, là, des Stormtroopers classiques, là, les premières versions. Donc,
les blancs-noirs.
C'est sûr qu'on revient dans le temps. Là. On n'est plus à l'épisode 7. Là. Donc, on revient un peu dans le temps. J'ai bien hâte de revoir le X-Wing. On a vu des photos leakées. Il y a trois photos, en fait, leakées de, je pense, c'est TMZ, je ne suis pas certain.
C'est ça.
Donc, ils sont noirs et puis ils ont des lignes blanches dessus.
Tant qu'à parler de TMZ, on va finir avec aussi... Ils ont montré des images aussi d'un bunker d'un bunker aussi que d'un vaisseau de transport qui transporte les troupes.
Mm-hmm.
Donc...
Ah oui, si je me souviens de la photo, il y avait plein de boîtes oranges, des espèces de compartiments autour des comme s'il y avait de la marchandise qui avait été sortie du transport. Je sais pas si tu te souviens de ces photos-là.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Puis il y avait aussi une scène de ce qu'on voyait des Stormtroopers morts
Sur une plage,
par terre, comme sur une plage ou dans l'eau, un peu dans très très peu d'eau, genre 2-3 cm d'eau.
Avec un vaisseau qui était comme écrasé dans le milieu.
Mm-hmm. Donc, j'ai hâte de voir ça. On voit déjà l'ambiance un peu qu'ils essaient de mettre. J'ai hâte de voir comment cru ça va être comme film.
Ouais, je pense que ça va être beaucoup plus sombre que les autres films. C'est peut-être un peu comme Revenge of the Sith, un peu.
Mm-hmm. J'espère plus que ça encore. Je suis pas mal.
Ouais, mais je pense qu'il faut qu'il garde l'idée que c'est un film Star Wars. Fait que
ça peut pas être R, là, comme Deadpool.
C'est pas
là.
Saving Private Ryan.
Non, c'est ça. Malgré que Saving Private Ryan, était-tu 18 ans et plus ou il était 13 ans et plus? Je pense qu'il devait être 13 ans et plus. Ah non, il était 18 ans et plus juste à cause de la scène d'ouverture.
Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est ça. Qui était un peu trop choquante pour beaucoup de monde à cette époque. Donc. J'ai bien hâte de voir...
Les... aujourd'hui, ça serait 13 ans et plus.
Ouais, ben c'est ça. Mais, en effet. Mais j'ai bien hâte de voir... j'aimerais ça voir, tu sais, la photo qui avait été montrée à la célébration des transports de troupes en train d'atterrir puis les commandos en train de sortir. Là, ça, j'ai tellement hâte de voir ça. Puis il pleut, la pluie battante.
Ouais,
là.
C'est ça.
Ça, j'espère que c'est un concept qu'on va vraiment voir comme... comme un storyboard, là, vraiment, ça va être impressionnant à voir. J'ai beaucoup d'anticipation pour ça.
Ouais. Donc, on a aussi les détails d'une autre séquence, qui est une scène d'infiltration. Un peu comme Luke et Han, quand ils se déguisent en Stormtrooper dans Un Nouvel Espoir.
Mm-hmm.
Le personnage de Felicity Jones se déguise en Imperial Gunner, tandis que le personnage de Diego Luna se déguise en Commandant Impérial.
Mm-hmm.
On n'a pas plus de détails sur la scène.
Non, c'est ça. Est-ce que c'est à bord de la Dead Star ou c'est avant de se rendre à la Dead Star? Si on ne le sait pas encore. Je suppose que c'est dans la Dead Star, mais est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans la Dead Star pour voler les plans? Pas nécessairement.
Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste une base impériale sur une planète ou quelque chose comme ça.
Ben, si on se fie à l'espèce de mini trailer qu'il avait montré à la célébration.
Oui.
Ça avait l'air de se passer sur la planète autour de laquelle la Death Star est en orbite.
Oui, c'est ça, exactement.
Donc,
la planète, on voyait que c'était comme une jungle de ce qu'on pouvait voir.
Mm-hmm. Puis s'il y a un débarquement au sol, ça risque d'être sur cette planète-là. Ça va être un peu comme dans Return of the Jedi, quand il infiltre le bunker, il y a peut-être une base un peu plus grosse. Là. Ça doit être, d'après moi, un peu comme ça. Là.
Ouais, un peu
j'espère que ça sera pas trop proche de qu'est-ce qu'il y a dans Return of the Jedi là. Et puis ils mettent des bombes à la fin pour la faire exploser là.
Okay, épisode 7 c'était un remake de Un Nouvel Espoir puis Rogue One c'était un remake de Return of the Jedi.
Ouais, il en faudrait pas là. Vraiment là, faudrait vraiment pas, mais bon, ouais. C'est intéressant, puis on sait que c'est Gareth Edwards, son film préféré c'était A New Hope, donc c'est un petit clin d'œil justement comme à l'infiltration de Luke et Han Solo dans A New Hope, donc intéressant. Ouais. Mais je fais juste imaginer, moi, Diego Luna déguisé en commandant impérial, c'est comme quand t'es un commandant, t'es les gens dont tu as le commandement, les personnes inférieures à toi, te connaissent.
Ouais, c'est ça.
C'est pas comme un Stormtrooper, ils sont tellement génériques que tu peux passer sous le nez de plein de monde. Tandis que là, un commandant impérial, les gens, de un, voient ton visage, Puis si t'as jamais vu, j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir, si c'est vrai. C'est peut-être pas commandant impérial, c'est peut-être juste un officier, en fait.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, il a peut-être vu que sur un concept art, que le costume de Diego Luna était comme gris avec le petit chapeau. Fait qu'il a peut-être supposé que c'était un commandant impérial, mais c'est peut-être tout simplement un officier sur le pont d'un Star Destroyer ou peu importe, là.
Ben, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, peut-être ce qu'il voulait dire, c'était un personnage autre qu'un Stormtrooper.
Mm-hmm. Un Imperial Gunner, probablement, parce que... J'essaie de voir pourquoi ça pourrait être un Imperial Gunner.
Ben, si, c'est sur une base. Mm-hmm. Ils ont comme sûrement des tourelles avec ouais. Les canons. Donc, mm-hmm. Si on regarde un peu comme la Death Star, avec les canons de la Death Star, c'est peut-être mm-hmm. un peu sur le même principe.
Mm-hmm. En effet.
Ensuite, on parle un peu des aliens que nous allons voir dans le film.
Mm-hmm.
Donc, on apprend qu'il n'y a pas de grosses scènes comme la cantina dans Un Nouvel Espoir, ou le palais de Jabba, ou le château de Mas Kanata, où toutes les aliens sont regroupés ensemble. Mm-hmm. Au contraire, ce qu'on nous dit, c'est que les aliens dans Rogue One vont évoluer aux côtés des personnages humains et qui sont très réalistes. C'est mm-hmm. ce qu'a affirmé Neil Scallon, qui est un des...
qui est le chef de la production des costumes, des props, puis des choses comme ça. Là. Ben, c'est intéressant de voir des... C'est vrai que... Quand tu y penses, à part peut-être Niemnum avec qui interagit avec Lando, les Ewoks, en général, les Ewoks avec Léa, ben nos héros, peut-être les Ugnaughts un peu avec C-3PO, mais puis Jabba, ouais, il y en a quand même pas mal qui interagissent avec nos héros, mais sont souvent regroupés ensemble pareil. T'sais, les Ewoks, c'est une bande de Ewoks. Les Ugnaughts, il y a plusieurs Ugnaughts ensemble. Dans le palais de Jabba avec Luke, ben. Léa et Anne, ben c'est dans le palais de Jabba. Ils sont tout le temps regroupés. Les Jawas, c'est une grosse bande ensemble. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait un alien qui fasse partie du groupe, de l'unité spéciale.
Mm-hmm.
Tu sais, oui, il va avoir un droïde, mais les autres ont tous là, semblent tous être des humains, en fait. Je sais pas, ça me fait penser un peu. On a fait l'interview à Star Wars Andrix 118 avec Kirel Benzi. Je sais pas mm-hmm. si tu l'as vu, la recherche.
Non, et je puis, l'ai pas encore.
Et puis, ça montre, je me souviens plus le chiffre exactement, mais que dans tout l'univers étendu, il y avait 21 000 personnages, quelque chose comme ça, et puis 85% étaient des humains. Tu sais, fait que c'est certain que, bon, ça a leur rapport au fait que, bon, on est des humains, puis on écrit ouais, des rôles d'humains, mais c'est certain que proportionnellement à la galaxie, ça fait pas du sens. Mais encore une fois, ici, ça serait le fun d'avoir un alien... dans l'unité, qui pourrait interagir avec les personnages. Ça me fait penser un peu dans The Force Awakens, il y a un des pilotes qui est un alien, donc ça fait différent.
Ouais.
Donc, Mas Kanata qui interagit aussi avec nos héros, mais encore une fois, est entouré d'autres aliens, donc c'est vraiment dans une situation, un endroit particulier qui a beaucoup d'aliens.
Ouais, c'est ça. Je pense que, comme tu dis, d'avoir un alien qui fait partie du groupe des héros, mais qui a aussi un rôle important, pas juste un personnage qu'on voit 5 minutes dans le mm-hmm. film. Comme Mas Kanata, on la voit quoi, 10 mm-hmm. minutes?
Puis si c'est un personnage comme ça, s'il vous plaît, pas un Jar Jar Binks, parce que oui, c'est un exemple parfait. C'est un exemple parfait, parfait de justement un alien qui évolue spécifiquement avec des humains puis qui suit tout le long, mais c'est un échec. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose qui va fonctionner.
Ouais, puis c'est de même qu'ils vont réussir à voler l'étoile de la mort. Jar Jar va sauter sur un droïde qui est brisé, puis il va se mettre à tirer tout le monde.
Ah. Oh là 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 là.
On va essayer de pas y penser.
Pauvre Ahmed Best, hein.
Carrière est finie, ouais. Sa carrière est finie. C'est fini. Donc, on a appris par la suite. Quand même assez de détails sur les Stormtroopers qu'on va voir dans le film.
Mm-hmm.
Donc, autre que les Stormtroopers classiques de la trilogie originale, on apprend qu'on va voir aussi les Black Stormtroopers, aussi connus sous Death Trooper ou Shadow Trooper.
Mm-hmm.
Donc, il y a deux types qui ont été décrits. Donc, il y a le Stormtrooper classique, mais tout en noir, mm-hmm. qui est ce qu'on appelle le Shadow Trooper.
Ouais, qu'on a vu dans l'univers étendu, etc. Là.
C'est ça. Et il y a aussi celui qu'on décrit, qu'on a pu voir aussi sur une des photos justement que Donnie Yang avait mis sur Instagram, je pense, mm-hmm. Où ce qu'on voyait trois castes de Stormtrooper. Donc c'est un mélange de Stormtrooper et aussi un mélange de Republic Commando.
Mm-hmm.
Donc il y a deux lumières vertes qui s'allument où ce qu'il y a comme les micros.
Mm-hmm.
dans le bas du casque. Puis on apprend aussi que ceux qui joueraient le rôle des Stormtroopers noirs, c'est, ils ont cherché des acteurs qui sont plus grands que la majorité des personnes qui ont joué les Stormtroopers. Donc, je pense, il me semble que j'avais lu que dans Force Awakens, les Stormtroopers mesuraient 5 pieds 10. Et que pour les Black Stormtroopers, on recherche des personnes de 6 pieds 3.
OK. Donc la grandeur de Darth Vader, en fait, à peu près. Là.
Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Alors, on a aussi la description d'un nouveau type de Stormtrooper qui s'appelle le Scarab Trooper. Scarab, parce que c'est comme ça a l'air comme un Stormtrooper pour le désert, un peu comme le Sand Trooper.
Scarab, c'est le. Scarab, c'est le nom de. C'est un scarabée, en fait.
Un scarabée, oui.
Donc, avec l'espèce de petite bestiole des sables.
Exact. Donc, on apprend que la description qu'on a, c'est que c'est une armure elle est beige. Qui rappelle, c'est comme un mélange de Sand Trooper puis de Scout Trooper. Le casque ressemble plus à un Scout Trooper qu'à un Stormtrooper. Mais il y a quand même des plaques d'armure comme le Sand Trooper dessus. Il y a quelqu'un qui avait fait une image concept basée sur la description qu'on a pu voir sur les médias sociaux. Et la personne de Making Star Wars qui a décrit le Scarab Trooper, il a dit que l'image était vraiment... comment on peut dire, spot on, donc c'était vraiment
ouais, ça. Oui, c'était vraiment bien capturé ouais. La description.
C'est ça, c'est que le produit officiel qu'on va voir, la photo officielle, devrait ressembler vraiment à ce que
l'artiste fait.
Oui, c'est ça, exactement.
Ben, c'est un photomontage, en fait.
Oui, donc c'est tout ce qu'on a sur les Stormtroopers pour le moment.
Moi, j'avoue que le Scarab Trooper, je le trouve cool, le look. Puis Black Stormtrooper aussi, l'espèce de mélange... d'un casque Republic Commando noir avec l'espèce de visière mandalorienne un peu. C'est un espèce de mélange un peu. Là, j'ai hâte de voir ça. Mais pourquoi tu chercherais des gens de 6 pieds 3? Ça doit être vraiment des commandos élites, là, comme des Navy SEAL de l'Empire, là, vraiment, qui sont noirs, qui font de l'infiltration pendant la nuit. Puis je fais juste imaginer... un raid de ceux-là sur notre groupe ou sur les rebelles, comment qu'ils ont aucune chance, là.
Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, quand j'ai vu la description, ça m'a fait penser, tu sais, parce que là, ça se déroule dans la trilogie, entre l'épisode 3 et 4, donc les Stormtroopers sont supposés être encore des clones.
En et partie, donc, du moins.
En partie, ouais, c'est ça. Donc, les Black Stormtroopers, moi, je les voyais comme un peu comme les ARC Troopers dans Clone Wars. C'est comme le groupe élite.
Ou peut-être justement que c'est des Clone Troopers encore, ceux qui ont survécu. Parce que eux ont été entraînés beaucoup mieux que les Stormtroopers qui ont été recrutés comment t'appelles ça quand t'es forcé la conscription, là.
C'est ça, ouais.
Des conscrits. Donc, eux autres vont être moins talentueux, moins bien entraînés que peut-être des anciens... Clone Trooper qui sera encore c'est encore là comme Rex ou peu importe là. T'sais? Parce qu'on sait que Rex est encore vivant. Sauf que là, bon oui, il serait peut-être plus jeune, là, les Black Stormtrooper, mais parce que ça se passe techniquement à peu près à la même époque.
Ouais, c'est ça.
Que Star Wars Rebels.
De ce qu'on voit dans Rebels, Rex puis les autres clones savent encore comment se battre. Donc ouais.
Intéressant. Donc on va poursuivre maintenant avec des grosses rumeurs de personnages de retour. En fait, des personnages de la trilogie originale. Donc, on parlait de Star Wars Rebel. Dans Star Wars Rebel, on a eu le retour de Darth Vader. Et apparemment, dans Rogue One, Darth Vader serait de retour aussi. Qu'est-ce qui a parti la rumeur? Et qu'on a vu le costume de Darth Vader, la version A New Hope, qui a été méticuleusement recréé par l'équipe de Brian Muir et qui a été vu sur le plateau de Rogue One. Et puis, en plus... ça, je l'ai appris comme hier en préparant l'émission, c'est que James Earl Jones serait de retour pour donner sa voix au Seigneur Sith, à Darth Vader, donc bonus x2.
Ouais, c'est ça.
On va vraiment avoir le Darth Vader original, donc c'est vraiment super intéressant. Maintenant, est-ce que ça va être juste un caméo ou un rôle plus important? Les rumeurs disent que Darth Vader aura un rôle... dans quelques scènes, donc, mais un rôle important dans quelques scènes ou des séquences, et qu'il est là pour être un élément de crainte pour nos héros. J'essaie de passer un peu comme dans Star Wars Rebel. T'sais, Darth Vader, c'est comme un cauchemar, en fait. Puis il y a énormément, on voit ça quand tu vas lire Star Wars Battlefront Twilight Company, les soldats ont jamais vu Darth Vader pour eux, c'est comme une histoire d'horreur, faut pas que tu le croises. Ils ont juste entendu des rumeurs, puis comme le bonhomme 7 heures.
Ouais, c'est ça, comme un boogeyman. Hein?
Un boogeyman, exactement. Donc, j'ai l'impression que il l'amène un peu dans ce sens-là. On va peut-être juste le voir dans une scène. Puis d'ailleurs, il y a un storyboard qui montre Darth Vader en train de décapiter des rebelles sur un champ de bataille de différentes façons. Par exemple, en lançant son sabre laser, un peu comme c'est dans The Force Unleashed que tu fais lancer ton sabre laser.
Ouais,
c'est ça. En lévitant des corps pour bloquer des tirs de laser, probablement en décapitant en arrachant les bras avec la force, toutes sortes de trucs comme ça, assez, on va le dire, dégueulasses à l'écran. Donc, je fais juste imaginer des soldats qui voient ce seigneur Sith-là, une ombre noire sortir d'une navette, puis qui commence à lui seul à détruire tout autour de lui, puis ils sont pas capables de rien faire. Ça crée du cauchemar. Ça, on peut juste, ils peuvent juste mettre un peu l'ambiance de comment que le film va être dark. Je l'imagine, il sort de la navette, la pluie battante, t'entends les gouttes qui ciselent sur son sabre laser, là, tu sais, qui s'évaporent sur son sabre laser, et puis qu'il fait juste avancer, puis il détruit tout le monde sur son passage à lui seul. Ça peut mettre une image incroyable dans la propagande de l'Empire.
Tu sais quoi, j'ai une petite théorie moi, là-dessus. Mm-hmm. Moi, je pense que le film, ça serait la scène finale du film. Donc, okay, les héros qui attaquent la base, quoi que ce soit. Mm-hmm. Puis Darth Vader qui... moi, je pense que tous les héros du film se font tuer.
OK.
Puis avant de mourir, ils transmettent les plans qui se ramassent sur le vaisseau, le Tantive IV de Leia. Mm-hmm. Fait que le film se déroule comme juste avant le début de l'épisode 4.
Mm-hmm.
Puis que là, le film finit qu'on voit que, genre, un officier impérial, il dit à Darth Vader, on a localisé la transmission. Puis que Vader dit... Prepare my ship, quelque chose de même, puis mm-hmm, là, ils partent après le vaisseau.
Ah, ça pourrait être intéressant, en effet. Ah ouais, ça veut dire qu'on aurait quelques scènes que Darth Vader est au courant que les plans ont été volés, c'est et ça, puis il court après les héros. Dans le fond, on le voit, mais pas comme acteur principal, parce que ça reste qu'il disait qu'il n'y aurait pas vraiment de Jedi dans ce film-là. Mm-hmm. Oui, ok, Darth Vader, c'est une exception. Mais je préfère avoir un usage limité, mais le voir un peu à la fin, comme tu dis, comme un big boss dans un jeu vidéo.
Ouais, c'est ça. Les héros, ils pensent, sont comme, ah, ok, on a réussi, on est correct, puis là, tu sais, dernière minute, Darth Vader arrive.
Il gâche le party.
Ouais, il gâche le party, c'est
Ouais, c'est une théorie intéressante. Donc, si on retourne aussi dans la trilogie originale, dans A New Hope, qui était la personne dans A New Hope, je dirais la plus proche de Darth Vader, c'était le Grand Moff Tarkin. Et il y a aussi une rumeur que Grand Moff Tarkin aurait une présence dans le film, bien que minime. La rumeur vient tout simplement de Concept Art, qui montre le Grand Moff Tarkin sur le pont d'un Star Destroyer en train de parler avec Darth Vader. Donc, qu'est-ce qui me dit que c'est peut-être vrai? C'est que c'est à bord d'un pont du Star Destroyer et non dans la Death Star.
Mm-hmm.
Donc, ça pourrait être vrai. Bien sûr, ça sera pas Peter Cushing parce qu'il est mort. Il pourrait reprendre le même acteur qu'ils ont pris dans Revenge of the Sith ou n'importe qui d'autre. Maintenant que la technologie, ça prend pas grand-chose pour recréer un visage. Et puis, il pourrait être encore plus ressemblant à Peter Cushing que l'acteur dans Revenge of the Sith même.
Oui, ouais, parce qu'il va être plus vieilli aussi.
Mm-hmm. En effet. Ensuite, la grosse rumeur qui a pas nécessairement été confirmée, mais... qu'un gros indice qui aurait peut-être été donné, ça s'est déroulé au Toy Fair de Nuremberg. La compagnie Lego a dévoilé un graphique qui montrait ses différents produits qui s'en venaient en 2016. Et puis, vis-à-vis Rogue One, ils ont montré un vaisseau particulier. Ceux qui jouent à Star Wars miniature le connaissent comme le Firespray 31,
ouais,
qui est le modèle de vaisseau. Mais la plupart d'entre vous, auditeurs, le connaissez sous le nom du Slave One. Donc, le vaisseau de votre chasseur de primes préféré, Boba Fett. Maintenant... on voit l'image du vaisseau de face. Il y a des petites différences avec le Slave One. Donc, est-ce que c'est vraiment le Slave One? Ça reste à confirmer. C'est peut-être juste un autre vaisseau similaire. Mais bon, est-ce que tu te servirais de ce vaisseau-là pour promouvoir un film si c'était pas le Slave One?
C'est ça, exactement.
N'est-ce pas?
Tu mettrais plus sinon un TIE Fighter ou quelque chose comme ça, pas un vaisseau que personne connaît.
Mm-hmm. Ou carrément Darth Vader, mais je pense qu'ils veulent pas dévoiler tout de suite parce que là, on est encore dans la phase que le tournage est pratique fini, mais il y a peut-être quelques scènes encore à tourner. Ils veulent pas encore vendre la mèche que certains. Un grand retour de personnages vilains connus là, dans le film. Là. Mais une chose qui, en passant ici comme ça avec Boba Fett, ça ramène la rumeur que la première fois qu'on a entendu parler de Rogue One, on disait tout, c'était des chasseurs de primes qui allaient capturer les plans de la Death Star. Tu sais, ouais. Les premières rumeurs.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, ça revient encore à Boba Fett. Puis là, j'ai réfléchi à ça. Je mets la scène, on se retrouve dans le Star Destroyer, dans Empire Strikes Back. Darth Vader vient d'engager des chasseurs de primes. Les officiers impériaux qui sont là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Bounty Hunter, we don't need that scum.
Ouais. »
Est-ce que ça pourrait être un rapport? Pourquoi Darth Vader t'a été chercher des Bounty Hunter? C'est eux autres qui nous ont volé les putains de plans de la Death Star. Pourquoi t'es engagé?
Parce qu'il a été impressionné par leur geste. <C'est ça. rire> qu'ils ont fait, des commentaires.
On va tous se mettre désengagés.
Ouais, c'est ça.
T'sais? Non, mais tu sais, ça pourrait faire un lien. J'espère qu'il ferait ce lien-là, tu sais.
Ouais,
ça pourrait confirmer, tu sais, Bounty Hunter, we don't need that. Comme je sais pas c'est quoi la phrase en français, des chasseurs de primes, on n'a pas besoin de ces mécréants ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, ça ferait un super lien, j'avoue que quand j'ai pensé à ça, je disais, ça serait tellement cool qu'ils fassent une référence. ben, juste le fait qu'ils soient là, que ce soit des Bounty Hunter qui volent, tu fais un lien direct. Même si c'est pas nécessairement ça. Il a peut-être juste engagé des Bounty Hunter parce que bon. Il a besoin d'experts en track pour traquer Luke Skywalker et le Millennium Falcon. Puis pour avoir aussi un lien avec Boba Fett encore, no disintegration this time. Qu'est-ce qu'il va faire dans Boba Fett? Peut-être qu'il va tuer quelqu'un qui n'avait pas d'affaires. Dans ce film-là, il pourrait aussi faire un lien avec ça, t'sais, faire un peu de fanservice comme ils ont fait avec Le Réveil de la Force, etc. C'est certain qu'il va en avoir parce que les réalisateurs sont des fans de Star Wars. Donc, c'est certain qu'il va y avoir du fanservice à quelque part. Mais ça pourrait être juste un petit Easter egg comme ça, là, ici et là, qui pourrait être intéressant. Mais bon, le fait qu'il ait dévoilé, on revient sur la nouvelle qu'on vous parle, c'est qu'ils ont dévoilé que Slave One, ou du moins un vaisseau du même modèle que Slave One, va être la vedette sur les emballages, en fait. Ben, sur certains emballages. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que à l'origine, c'est le vaisseau qu'utilisent pour aller sur la planète. Peut-être les chasseurs de primes sont dans ce vaisseau-là. Et puis peut-être que Boba Fett va voler ce vaisseau-là. N'est-ce pas?
Ouais, peut-être parce qu'il l'a plus dans. À la fin de Clone Wars, il l'a plus.
Mm-hmm.
Le Slave One. Dans la série télévisée, là, je veux dire.
Mm-hmm. Oui, ouais, c'est ça.
Se les fait voler. Fait que,
justement, ouais, par des Bounty Hunters.
Oui, c'est ça, exactement.
Ou des mercenaires, je me souviens plus exactement, ça fait trop longtemps. Mais bon, tu sais, il va le récupérer peut-être à un certain moment donné. C'est peut-être là
qu'il
va le récupérer. Enfin, c'est peut-être pas le même non plus. Il va peut-être. Ça va peut-être être le Slave 2, en fait, mais. Mais dans l'univers étendu, ils ont fait un Slave 2 qui était très laid. Là. Je sais pas si t'en souviens.
C'est pour ça, c'est comme non.
Non, mais il reprendrait pas ce vaisseau-là, bien sûr, mais ça pourrait être vraiment le même, un vaisseau du même modèle qu'il renommerait, en fait.
Ouais.
À défaut d'être le vaisseau de son père.
Ouais.
Et on termine dans les personnages. En fait, le dernier viendrait pas de la trilogie originale, mais viendrait de l'univers étendu. Donc, un nouveau vilain. Il y a quand même beaucoup de vilains là présentement. Est-ce que c'est un vilain plus important que Grand Moff Tarkin ou Darth Vader ou un vilain secondaire? On ne le sait pas encore. Ils disent pas non plus si c'est un vilain ou un héros, mais bon, d'après la description, on pourrait supposer un vilain. C'est un homme d'un certain âge, un leader qui a un statut important dans l'Empire. Il porte une grande cape blanche avec une ouverture à l'arrière. Il y a apparemment une séquence où cet impérial ou cette personne marche dans une étendue d'eau peu profonde avec sa cape qui traîne à l'arrière dans l'eau. Et puis aussi une scène qui rappelle celle du Retour du Jedi où Darth Vader, l'empereur, marche à travers deux rangées de légions de Stormtroopers. Apparemment, il a une arme impressionnante sur sa hanche. Et puis il y aura un nom de personnage très cool. Et c'est apparemment le personnage de l'acteur Ben Mendelsohn. Donc, Sur quoi tu penses que tout le monde a sauté en entendant ça?
Tron.
Eh oui, c'est une autre rumeur que beaucoup de gens pensent que ce serait le retour de Tron encore dans l'univers canon. Donc ça serait comme la troisième rumeur qui reviendrait.
Ouais, parce que là, il est supposé pareil dans la prochaine saison de Rebels.
Mm-hmm. Et puis, t'as pas lu encore Aftermath?
Non.
Mais à la fin, Rae Sloane, qui est la commandante impériale, elle retourne voir un amiral qui aime la musique et qui aime l'art. On le nomme pas, on dit pas qu'il a la peau bleue, mais les grosses rumeurs seraient que ça serait Tron encore. Donc, ça ferait comme une troisième rumeur. C'est une dans les films, une dans les romans et une dans la série télé qui convergerait vers un personnage. Est-ce que c'est Tron? Je pense pas qu'il l'appellerait Tron. Et puis je pense pas qu'il aurait la peau bleue. Ça risque d'être un personnage inspiré de Tron. C'est un stratège. Il se fie sur l'art d'une société pour la comprendre et réussir à trouver une stratégie pour l'abattre. C'est ça que j'avais aimé beaucoup de Tron.
Ouais,
il y avait une façon différente d'approcher ses adversaires, comme « the art of war ».
Ouais, c'est ça, comme... c'est très stratégique.
Mm-hmm. Donc, j'aimerais ça qu'il réintègre un personnage de ce genre-là. Il n'y a pas besoin d'avoir le visage bleu. Là. Puis, ils l'appelleront pas Tron, parce que si on se fie un peu de quoi la planète des Sith dans l'univers étendu, Corriban, qui ont renommé Moriban dans Clone Wars, tu te souviens? Donc, ah ouais. Si juste un autre planète, ils ont changé la première lettre juste pour pas que ça soit pareil à l'univers étendu, ils risquent de pas prendre le même nom.
Ils voulaient pas donner crédit à la personne qui avait trouvé Corriban.
Ouais, je sais pas. Mais bon, sûrement que c'est, je pense, dans les Lost épisodes, quand Yoda va sur une rencontre Dark Bane en espèce de fantôme.
Ouais, c'est ça.
C'est sur Moriban et non Corriban. Donc.
C'est ça. Je pense pas que c'est Tron non plus. Moi, je pense que le personnage de Tron, on a plus de chances de le voir dans Rebels, comme tel, comme on le connaît.
Mm-hmm.
Parce qu'on sait que.
En bleu, là. Vraiment avec la peau bleue.
Parce que Dave Filoni, c'est vraiment un fan de l'univers étendu et tout. Puis il aime ça, jeter des clins d'œil à l'univers étendu, justement, dans ses séries, dans ses épisodes. Fait que je pense qu'il y a plus de chances. On le verra pas, comme tu dis, dans le film, mais ça peut être un personnage très similaire.
Mm-hmm. Si maintenant le story group fait que tout est canon, puis il insère un Tron à la peau bleue dans Rebels, je vois pas pourquoi. Puis je pense pas que les gens de Rebels seraient capables de tuer Tron. Il était tellement fort.
Ouais.
Ça serait peut-être le genre qui réussirait à détruire nos héros au dernier épisode de la dernière saison. Là. Ça pourrait être ça aussi. Ou qu'il y aurait un survivant qu'on reverrait dans une autre série télé ou dans Rogue One même.
Mm-hmm.
Tu sais, Tron, je veux pas qu'il soit un vilain de service.
Non, c'est
dans Star Wars Rebels. Je veux qu'il soit là, il survive, qu'il soit encore plus fort que l'agent Kallus. Qui soit pas l'équivalent de Darth Vader quand même, mais qui ait un statut vraiment qu'il montre comme étant intelligent et supérieur. Et puis, le fait qu'il soit aussi dans Aftermath, en guillemets, peut-être, ça voudrait dire qu'il aurait survécu jusque-là. Donc, c'est vraiment dans la même période qu'il l'était dans les romans, en fait, après Return of the Jedi.
Mm-hmm.
Donc, on le verrait dans Rebels comme peut-être jeune capitaine, peu importe son rôle, son grade à ce moment-là. Il aurait survécu tout le long. Et puis on sait, après Return of the Jedi, quand tu vas avoir lu Aftermath, que tout l'Empire est fracturé. T'as Shattered Empire, je ne l'ai pas lu, mais toi tu l'as peut-être lu, Shattered Empire, la BD.
Oui.
Donc j'imagine qu'il montre un peu que l'Empire est dilué, séparé, tout le monde veut prendre le contrôle.
Pas du tout.
Pas du tout?
Non.
OK.
Non, c'est ça que j'aurais pensé, mais non, c'est comme l'histoire focus plus sur la mère de Poe Dameron.
Ouais, c'est ça qu'il m'avait dit.
Puis que là, c'est ça, fait que là, il y a comme genre c'est comme quatre numéros. Fait que t'as un numéro qui est avec Han Solo, un numéro est avec Luke Skywalker, un numéro est avec Leia. Puis tu sais, c'est chacun une mission différente, mais ça montre pas que l'Empire est divisé ou quoi que ce soit. Puis que.
OK.
Donc, non.
Donc,
le titre est trop peur.
Mais tu liras Aftermath, même s'il est plus difficile à lire par la façon qu'il est écrit, ou écoute l'audiobook. Moi, j'ai préféré écouter en audiobook, c'est beaucoup plus facile à comprendre parce que Mark Thompson, qui est le narrateur, il sait comment prononcer les phrases. T'sais, nous, c'est pas notre langue première, l'anglais. Donc peut-être qu'on a peut-être une difficulté avec sa syntaxe. Et puis, ouais. Mais Mark Thompson, qui est le narrateur, le fait comme il faut. Et puis, bien sûr, tu as tout le temps les effets, les voix, etc. Donc, c'est pas si pire Aftermath au bout du compte, parce qu'il en explique un peu, mais c'est très, très focusé sur une planète, c'est ça, une réunion de différents impériaux, etc. Donc, mais ça va peut-être te donner un peu un aperçu, mais j'ai bien plus hâte à Bloodlines, puis. Avec Léa et puis ouais. la suite d'Aftermath qui risque de nous montrer vraiment plus le contexte de la galaxie. Bon, on a dérivé beaucoup de Tron. mais juste pour dire que moi, j'espère qu'il ramène parce que c'est un des plus grands succès de l'univers étendu.
Ouais.
Puis c'est dommage que ça a commencé avec ça puis ils n'ont jamais réussi à égaler ça dans toutes les années de l'univers étendu. Ben, peut-être oui, un peu dans la trilogie Dark Bane. C'était quand même bien, mais pas au même niveau. Puis bon, oui, j'ai beaucoup aimé Legacy of the Force. Quand Ben, pas Ben Solo, que je dis là, Ben Solo, c'est dans Réveil de la Force. Quand Jason Solo tourne du côté obscur, c'est vraiment une excellente série. C'était 6 livres.
Ouais, 6, non, 9 livres.
9 livres.
Ouais.
Donc, c'est vraiment cette série de livres-là et la trilogie de Tron qui était vraiment spéciale. Mais Tron, pour moi, c'est encore le plus grand vilain de l'univers étendu. Donc j'espère qu'ils vont le garder parce que ça va peut-être ramener du monde même.
Oui,
du monde qui était frustré de son départ en fait, qui a été éliminé du canon en fait. Mm. Donc ça résume.
J'aurais juste dit, ça a du sens ce que tu dis parce qu'on sait que Rogue One, ça va pas aller chercher le même auditoire que Le Réveil de la Force parce qu'il n'y a pas les personnages principaux ou rien de ça. Fait que si tu veux vraiment aller chercher comme ce qu'on appelle le core fan base, les fans vraiment purs, là, ben c'est ça. Si tu réussis à intégrer un personnage de l'importance de Tron dedans, c'est sûr que tu vas aller chercher ces fans-là.
En effet. Je vais te poser une question comme ça. Penses-tu que la production est en retard sur le fait de nous vendre Rogue One? Nous, on sait que ça existe. Parce qu'on est des grands fans, etc. Puis la majorité de nos auditeurs le savent que Rogue One s'en vient. Mais le public général ont, selon moi, aucune idée qu'il y a un film en décembre avec l'épisode 7. Ils ont été le voir et tout. Puis ils savent qu'il y a un épisode 8 qui s'en vient. Mais ils n'ont aucune idée que Rogue One, il y en a très peu qui savent qu'il y a des spin-offs. Moi, des fois, je parle au boulot aux gens. Il n'y a aucune idée qu'il y a des spin-offs.
Ouais.
Est-ce que tu penses que la machine n'est pas enclenchée assez rapidement encore? Il y a eu le Super Bowl qui aurait pu être une grosse opportunité de montrer quelque chose. Peu importe qu'est-ce que c'est, une image. Peut-être pas une bande-annonce, malgré qu'il aurait sûrement pu parce qu'ils ont pratiquement fini le tournage. Puis même au Super Bowl, la majorité du tournage était terminée. Penses-tu qu'ils sont en retard ou qu'ils devraient se botter le cul? En fait.
Moi, je pense qu'ils n'ont pas commencé la promotion justement à cause du Réveil de la Force. Ils voulaient donner le temps au film du Réveil de la Force là, d'être en salle, puis que les gens le voient. Puis, tu sais, même encore, c'est encore dans le top 10 au box-office à tous les week-ends. Donc, il y a encore une audience qui y va. Je pense qu'ils attendent que ça soit fini avant de mettre vraiment en branle la promotion de Rogue One.
Aussitôt que le premier gros film de Marvel va ressortir.
Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça va être au mois d'avril parce que il y a Captain America qui sort au mois d'avril. Moi, je pense que c'est là qu'on va vraiment voir la première grosse bande-annonce de Rogue One. Puis que c'est là que la campagne promotionnelle va partir. Mais ça va jamais être à l'ampleur du Réveil de la Force.
Non, c'est ça.
C'est sûr. Là. Puis je pense que Disney aussi, ils s'attendent pas à ce que ça ait le même succès. Quoi qu'elle soit, on a appris en fait de semaine qu'ils font un Force Friday pour Rogue One. Mais ça n'aura jamais l'impact que celui du Réveil de la Force.
Non, c'est ça. Mais est-ce que tu penserais plutôt qu'ils pourraient sortir la bande-annonce sur Internet comme ils ont fait avec Twitter ou sur le web, carrément sur YouTube, sans avertissement, à défaut, parce que le Réveil de la Force, ils n'ont pas vraiment mis de quoi au cinéma officiellement.
Je sais. Moi, je pense que non. La raison est que s'il faut, tu sais, comme une sortie surprise, comme tu dis, sur Twitter ou peu importe, là, sur les médias sociaux d'une bonne annonce, le monde va faire « c'est quoi ça? »
Ouais, c'est vrai.
Je pense, tu sais, nous, on sait c'est quoi, mais comme tu dis, là, les gens... qui sont pas fanatiques comme nous, qui savent, comme tu dis, qu'il y a un épisode 8 qui s'en vient, mais ils savent pas des spin-offs, puis que là, ils voient cette bande-annonce-là, ils vont dire, c'est quoi ça? C'est pas l'épisode 8? Ou, tu sais, ils vont, c'est un fan-film, là, ils vont voir ça comme ça. Non,
jusqu'à temps qu'ils montrent Darth Vader puis les Stormtroopers dans la bande-annonce, le monde va dire, holy shit!
Ouais, c'est ça.
Il y a un autre film Star Wars.
C'est soit que, une fois qu'ils commencent la promotion, quand ça va commencer, c'est soit qu'ils vont mettre l'emphase sur Stormtrooper, Darth Vader, puis tout ça, c'est ça qui. Puis je suis sûr que c'est la raison pourquoi Darth Vader est dans le film, justement.
Mmh. Ah, j'imagine tellement un teaser que ça a l'air juste d'un film de guerre.
Ouais.
Tout le long, tu vois des combattants qui sont en train d'infiltrer dans. Il pleut, un peu le concept art qu'on avait vu à Célébration.
Ouais, ouais.
Il pleut, ça a l'air de Starship Trooper ou peu importe, il débarque. Tu le sais que c'est un film de science-fiction parce qu'il y a des vaisseaux. Il débarque, il court dans la boue, etc. Puis là, tout d'un coup, tu vois Darth Vader. Oh my god, là, Rogue One, a Star Wars story.
Ouais, c'est ça. Tu vois juste comme Darth Vader de dos, tu vois juste comme les deux pieds. Puis là, tu vois le sable laser rouge qui s'allume.
Mm-hmm.
Puis là, tu l'entends respirer. Puis là, that's it. Pouf, Rogue One.
Oui, parce que c'est quand même. Le mot Star Wars est dans le sous-titre et non dans le titre. Hein, donc, ça.
Ouais.
Il faut vraiment le vendre un petit peu différemment. C'est pour ça que je dis qu'il devrait commencer. Mais j'avoue que ton point qu'il est encore en salle et il y a du succès encore, ils vont attendre. Ils vont prendre le temps de faire une belle bande-annonce, puis etc.
Ouais, puis c'est sûr, c'est clair que Disney, ils savent que Rogue One, ça va jamais avoir le succès. T'sais, ça va pas faire là, genre 200 millions box-office le premier week-end comme le Réveil de la Force. Là.
Mm-hmm.
Ils savent, là. Mais ils savent aussi que, tu sais, vu qu'il y a Star Wars attaché, que ça va quand même connaître du succès. Mm-hmm. Mais moi, je suis sûr, je pense que c'est au mois d'avril qu'il sort Captain America, au début avril. Fait que je pense que c'est là que ça va sortir, là, la promotion va commencer à. Parce que la première grosse bande-annonce du Réveil de la Force, c'était pendant le Celebration, right?
Ouais.
Qui était au mois d'avril l'année dernière.
Mm-hmm.
Donc, d'après moi, ça va commencer à la même période, là.
OK. Ouais, je t'ai pas dit que ça sera pas au Celebration en Europe cette année parce que c'est au mois de juillet. Ils attendront pas au mois de juillet. Ils vont sûrement montrer un making of ou whatever comme ils ont fait à Comic-Con.
Ouais.
Mais je suis d'accord que avril c'est un moment propice. Y a-t-il un événement particulier en avril qu'on pense pas présentement qui pourrait être un bon véhicule autre que la sortie de Civil War là? Parce qu'il faut qu'il soit plus innovateur que juste le mettre au cinéma. Parce que maintenant, le monde, ils vont pas nécessairement au cinéma pour voir les bandes-annonces. Moi, j'irai pas nécessairement voir Civil War à sa sortie. Donc, je veux une autre façon de le voir. Fait que...
La seule autre chose que je peux penser, c'est...
Est-ce un événement sportif ou quelque chose?
Je sais pas. Mais tu vois, là, je viens de voir que Civil War sort juste le 12 mai.
OK.
Fait que c'est même pas au mois d'avril.
Donc, peut-être avant même.
Ouais, peut-être Force Star Wars Day, mais peut-être.
Ah, ben oui. Tu l'as trouvé. Je suis pas mal certain que ça va être May the 4th. May the 4th, c'est Civil War, ça.
Ouais, mais c'est peut-être là qu'ils vont le sortir. Le film sort le 6 mai, mais May the 4th, c'est comme deux jours avant. Fait que c'est peut-être là qu'ils vont mettre la bande-annonce en ligne.
Mm-hmm.
Puis que là, il va être attaché à Civil War si tu vas aller le voir au cinéma.
En effet.
Ça a du sens.
C'est quand même loin.
Ouais. Hein?
Pour commencer à vendre un film que beaucoup de gens n'ont aucune idée qu'il existe, puis qu'il n'y a même pas Star Wars officiellement dans le titre. Tu sais, c'est en sous-titre.
Ouais, c'est ça, en tout cas.
J'ai hâte de voir. Donc, ça conclut notre émission Spoilers numéro 16, qui nous remet un peu à jour sur Rogue One. Comme j'ai dit plus tôt dans l'émission, je suis certain que quand vous allez écouter cette émission, on va avoir eu plein de super spoilers qu'on n'aura pas eu l'occasion de vous parler ici. On va se faire attraper. C'est tout le temps ça quand on fait des podcasts. On se fait tout le temps avoir. Donc, on espère que ça va vous plaire puis ça va vous redonner le goût un peu à Rogue One parce qu'on est encore un peu, dans la vague du Réveil de la Force. Mais là, on c'est le temps de changer de film, lentement mais sûrement. Surtout que le tournage de l'épisode 8 en plus commence. Donc, je pense qu'ils vont essayer de garder ça le plus secret possible. Je sais pas si tu as vu la nouvelle aujourd'hui que je pense qu'elle est sortie il y a quelques heures que le tournage de Dubrovnik, ils ont engagé 600 gardes de sécurité à Dubrovnik et puis ils ont une flotte de drones anti-drones.
Ouais, ça j'avais entendu l'affaire des drones, qu'il y a des drones pour pour justement détruire les drones espions.
Ouais, les drones des civils qui veulent prendre des images. Là. Donc, ils font tout pour cacher l'épisode 8 parce que je les comprends. Il faut pas enlever l'attention de Rogue One parce qu'il faut faire de l'argent avec Rogue One. J'ai aucun doute que ça va être le film le plus lucratif de l'année quand même. Même si Superman, Batman, Dawn of Justice va être très très proche, j'ai quand même l'impression que Rogue One, juste à cause du bassin de fans, va le dépasser quand même de justesse. Mais je sais pas si t'es d'accord, parce que t'es un gros fan de Superman.
Ouais.
Mais bon, enfin, c'est pour ça qu'il faut qu'il commence à parler de Rogue One pour enlever l'attention de l'épisode 8. Parce que veut pas, si on entend parler de l'épisode 8, on parlera pas de Rogue One. Parce que le monde va se focusser sur l'épisode 8. T'sais? Surtout que là, on sait un peu le début de l'histoire. Tout le monde va vouloir savoir qu'est-ce qui arrive à Rey, à Luke, Léa, etc. Donc, Finn, Rey. Donc, l'attention sera pas sur Rogue One, pas du tout si par hasard il y a des fuites. Hein?
Ouais, c'est ça, exactement.
T'sais, on n'avait rien à se mettre sous la dent à part The Force Awakens. C'est pour ça que les spoilers ont duré très très longtemps.
Mm-hmm.
Maintenant, on a autre chose à se mettre sous la dent, fait qu'il faut qu'ils fassent un peu un voile. Comme Rogue One, on n'a pas entendu parler du tout. Hein?
Non, c'est ça.
À partir du moment que les bandes annonces du Réveil de la Force sont sorties, il n'y a pratiquement rien eu de Rogue One, même si tout a été développé à ce moment-là. Puis il aurait pu avoir plein de fuites.
Ouais, puis moi j'aurais pensé que Disney aurait au moins mis en ligne le teaser qu'ils ont monté au Celebration.
Moi, c'est vrai, ils l'ont même pas mis encore.
Non, c'est ça.
Pourtant, Rogue Nation, c'est fini, là. Ouais, ils ont plus d'embargo, là. Ils peuvent le mettre en ligne, là. On parle de Mission Impossible Rogue Nation, pour ceux qui se le demandent, là. Parce qu'il y a eu un embargo à cause que les deux noms étaient trop proches l'un de l'autre, là.
Ouais, c'est ça.
Donc,
Je sais pas. En tout cas, moi, je suis surpris que ça c'est même pas... ça a pas été mis officiellement en ligne.
Mm-hmm.
Il est là. Si tu le cherches sur YouTube, il est là, mais...
La qualité est vraiment mauvaise.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment mauvais.
Mais ça avait donné des frissons, cette chose-là. Bon, enfin, il faut conclure. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions, vos théories. Moi et Jean-François, on a donné certaines de nos théories. Qu'est-ce que vous en pensez de nos théories? On est-tu dans le champ? Pensez-vous que Boba Fett va revenir? Pensez-vous que Tron ou un personnage inspiré de Tron va revenir? Envoyez-nous vos commentaires par email à studio@starwars.direct ou autant sur l'article de l'épisode sur notre site web starwars.direct ou bien sûr sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, sur notre chaîne YouTube. On reprendra certains de vos commentaires dans nos prochaines émissions spoilers, mais s'il vous plaît, ne parlez pas de spoilers sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui veulent rien savoir, donc gardez ça le plus secret possible. C'est pour ça que je préfère que vous nous envoyiez un email, donc ça va rester privé et les gens se feront pas avoir sur Twitter ou Facebook avec des commentaires spoilers. Donc s'il vous plaît, respectez les autres par rapport aux commentaires spoilers. Je vais te remercier, Jean-François. Comment les gens peuvent te rejoindre sur le web?
Sur Twitter, on peut me rejoindre à GF.Jedi.
Et dans mon cas, Danny Pépin en un seul mot, DANYPEPIN. Encore une fois, on est toujours à la recherche d'un éditeur sonore, d'un éditeur vidéo ou quelqu'un qui est capable de faire les deux postes afin d'offrir de l'aide à l'équipe de réalisation de Star Wars en direct. Comme j'ai dit plus tôt, ça va nous permettre de vous offrir plus d'émissions de façon plus régulière. Si ça vous intéresse et que vous rencontrez les prérequis, ben allez sur starwars.direct/recrutement et allez voir les postes qui sont disponibles. Et remplissez le formulaire et on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour vous intégrer à l'équipe. Les prochaines émissions, j'en ai aucune idée. Je vous rappelle que Star Wars en direct, littérature numéro 3 qui est disponible, Star Wars en direct 118 qui est disponible et aussi Star Wars en direct collectors numéro 1. On va aussi remercier nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Le Réveil des Fans, Radio H2O et Génération Star Wars et Science Fiction. Visitez nos partenaires parce qu'ils nous font quand même pas mal de publicité, autant sur les réseaux sociaux que sur leur site web, donc merci à eux. Donc, de la part de Jean-François et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.